tous et bienvenue dans l'Alliguez-vous sur Radio Plus. Nous vous souhaitons une bonne année 2019. Et pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de dresser le bilan de l'année précédente ?
L'Alliguez-vous, comme vous le savez, est une émission diffusée en direct chaque premier jeudi du mois, présentée par Pauline Contessotto et Nicolas Lecomte, volontaires en service civique pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. On vous propose aujourd'hui de revenir sur les sujets abordés depuis la première émission en septembre dernier.
Au sommaire donc, nous aborderons les coopératives jeunesse de service ainsi que les coopératives jeunes majeurs dont nous avons parlé au mois de septembre et octobre. Nous parlerons aussi des open badges, sujet principal de l'émission de novembre.
Nous terminerons avec une rétrospective sur la 7e semaine départementale de la laïcité, temps fort du mois de décembre. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous accueillons Sébastien Brioul. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission fédératif à la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais et merci d'être ici pour répondre à nos questions.
Merci.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
En septembre et octobre, nous vous présentions les coopératives jeunesse de service et les coopératives jeunes majeurs, deux initiatives pour la jeunesse. Si vous avez manqué ces émissions, pas de panique, voici un petit éclairage. La CJS est une coopérative permettant à un groupe de jeunes âgés de 16 à 18 ans de créer le temps d'un été, une entreprise éphémère dont ils géreront tous les aspects, des finances au marketing.
Inspirée de la CJS, la CJM propose, elle, à une douzaine de jeunes la même activité associée à une mission d'ambassadeur de l'économie sociale et solidaire, tout ça en service civique. La CJM en elle-même dure 6 mois et le service civique 8. Ces jeunes-ci seront âgés de 18 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Sébastien, on peut d'abord revenir avec toi sur la CJS. Quelle en est l'origine ?
Alors, les coopératives jeunesse de service sont un projet d'éducation par l'entrepreneuriat coopératif, donc pour des adolescents développés donc au Québec depuis plus de 30 ans. Le temps d'un été, effectivement, donc un groupe de 12 à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans créent et font vivre une entreprise coopérative. Elles sont arrivées, donc d'un point de vue historique, elles sont arrivées donc en Bretagne en 2013 et elles ont été expérimentées dans la région en 2015. Et à l'époque, donc, nous avons accompagné depuis 2016, nous sommes aujourd'hui donc parrains de 4 CJS dans le Pas-de-Calais sur 3 territoires, donc la CUA, la Cabalère et la CAL. Ce travail en fait partenarial engage un parrain économique, des financeurs et des bailleurs sociaux, services, structures, jeunesse, entreprises, habitants, donc au sein d'un comité local qui anime donc et porte le projet.
Quels sont les objectifs du coup pour les jeunes qui participent à cette CJS ?
Alors l'objectif est double. De créer une entreprise coopérative dans un premier temps et un double objectif sur une expérience d'apprentissage. Le créer l'impératif coopérative, l'idée c'est que l'activité de la CJS a une dimension donc marchande non lucrative. Elle s'articule autour de la production donc de biens et de services et les coopérants s'organisent autour des principales fonctions de l'entreprise. L'idée c'est qu'elles définissent ensemble leurs règles de fonctionnement et les décisions sont prises démocratiquement et selon les principes donc une personne égale une voix. L'autre objectif, donc sur l'expérience d'apprentissage, l'idée c'est que la CJS vise la prise de conscience de leur capacité par les coopérants et le développement du pouvoir d'agir. L'idée c'est qu'effectivement c'est que ces objectifs impliquent l'approbation et la mise en place d'une pédagogie favorisant l'agir, la prise de responsabilité et l'émancipation.
Et comment la Ligue de l'enseignement prend part à ce projet ?
Alors, comme évoqué précédemment, en fait, nous sommes parrains jeunesse des CJS sur lesquels nous intervenons. Et à ce titre, au regard du cahier des charges des CJS, nous devons donc conventionnellement d'être présents lors des comités locaux, d'embaucher deux animateurs dont le temps de travail sera intégralement dédié au projet CJS, d'assurer l'accompagnement et la coordination de l'équipe d'animation des jeunes, de mettre en place des temps de formation, d'assurer le suivi, le bilan et l'évaluation du projet.
Alors, vous nous avez parlé des deux animateurs. On les avait interviewés au mois d'octobre. On va réécouter une partie de leur interview, mais juste après une petite pause musicale.
Aubergine en janvier, clémentine en juillet, et Noël au balcon. plage, la terre est mon village, des voitures, des avions. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des smartphones à Noël, Saint-Valentin, des dentelles, Halloween, des bonbons. Des shampoings, des chaussures, une vie pleine d'aventures et pleine de promotions. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des crèmes pour le jour, des crèmes pour la nuit, des allées, des retours et la mélancolie. Merci, 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 merci. Aujourd'hui c'est le 3, c'est les soldes, soldats formés des bataillons. Au signal on y va, et puis chacun pour soi, à l'assaut des rayons. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu. Merci, 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 merci. Des infos, des rumeurs, des scandales, de la peur et des révélations. Des amis, des visages, des pouces ou des images, des photos de chatons. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu.
Et 9 minutes sur Radio Plus. C'était Antoine Salaire à l'instant sur Radio Plus avec Merci, Merci. On retrouve tout de suite la suite de votre magazine La Ligue et vous.
Et nous revoilà pour nous parler de la CGM. Nous avions reçu au mois d'octobre Frédéric Baritsch, chargé de mission pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, mais aussi Benjamin Godino et Aurore Denoir, les deux animateurs de la CGM de Bruay-la-Bussière. Nous les avons interviewés. On écoute tout de suite leur interview.
Alors une CGM, c'est une coopérative jeune majeure, hein, comme il a été dit précédemment. C'est tout simplement un projet qui est né il y a deux ans sur Bruay et qui permet à une douzaine de jeunes de créer leur entreprise coopérative sur une durée de 6 mois. En animant, gérant, recherchant des prestations et exécutant les prestations et tout le côté financier, gérant les ressources humaines de cette structure.
Comment il est né ce projet ?
Bah, ce projet, il est né à la suite des CJS qui ont été évoqués il y a un mois sur le plateau. Benjamin en a animé une cet été avec Aurore. Il y a deux ans, on avait mis en place pour la deuxième année consécutive une CJS à Bruay-la-Bussière. Et nos partenaires, nos financeurs nous ont dit, ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour aller dans la continuité, puisqu'une CJS se déroule sur une période de 2 mois, période estivale, juillet-août. La CJM pouvait être la continuité de cette action-là. Finalement, on s'est retourné vers une coopérative de jeunes, mais là majeurs, de 18 à 25 ans. 30 ans donc cette année pour les personnes en situation de handicap. On s'est tourné vers ce modèle-là parce que ça nous permettait également de travailler sur l'insertion des jeunes dans l'emploi.
Et peut-être vous pouvez nous expliquer en quelques mots, Benjamin ou Aurore, ce que les CGM ont concrètement de différent par rapport aux CJS.
Alors, pour expliquer un peu la différence entre les coopératives jeunes majeurs face aux coopératives jeunes de service, il y a clairement, comme disait Fred, en fait, cet intérêt d'insertion au niveau des jeunes, et on se rendait compte que sur les 2 mois, il y a une complexité en fait de faire de l'insertion avec des jeunes qui, au final, se retrouvent sur une période trop courte. Et au final, ben, ils se retrouvent dans un cursus scolaire qui leur plaît pas forcément, et ils s'en vont forcément à un échec focusant sur quelque chose. Et l'objectif, c'était de réussir à pousser un peu plus loin le projet professionnel et de se dire, bah, on va prendre un projet plus long, on va prendre plus d'acteurs, on va mêler une psychologue du travail qui va intervenir sur le projet pro et la construction de tout ça. Et ensuite, bah, on va essayer de pousser le truc plus loin. Donc, il fallait forcément, justement, au niveau des critères, bah, évoluer un peu, de se dire, on n'est plus sur du 16-18, mais sur du 18-25. Et c'est aussi face à une réalité, hein. Quand on voit, par exemple, les jeunes qu'on recrute, les seules expériences qu'ils ont, c'est du stage ou quoi que ce soit, ou très peu d'emplois, et il n'y a jamais de suite, en fait, face à ça, malgré que parfois ils aient des qualifications et des compétences. Bah, c'était justement l'objectif, c'est de leur laisser un temps plus large pour réussir à expérimenter ça et aller plus loin dans leur projet pro.
Comment sera structurée cette entreprise ?
Donc, au niveau de la structuration de l'entreprise, donc ils vont, on va les former en fait à un conseil d'administration qui va leur donner la possibilité de se répartir en différents comités. Donc le comité marketing, le comité ressources humaines et le comité finance, qui regroupe donc ces trois pôles regroupent la mise en place d'une entreprise justement. Donc à travers ces trois comités, ils vont avoir chacun une part de travail à effectuer pour donc niveau parti comité marketing se faire connaître la communication et mettre en place ben, justement les prestations qu'ils auront l'intention de réaliser. Au niveau de la partie ressources humaines, donc bah, ça touchera tout le bien-être de l'entreprise, comment se gère justement cette partie-là qui est pour certains inconnue. Et on va avoir la partie finance qui sera vraiment une très grosse partie de l'entreprise pour la compréhension de l'établissement des devis et la facturation par derrière, le suivi client également qui est très important. Et le dernier point qui leur montrera également la rémunération qui pourront en ressortir des bénéfices des prestations réalisées.
En plus de la CJM, les jeunes coopérants sont en service civique. Et dans le cadre de leur mission, c'est d'être ambassadeurs de l'économie sociale et solidaire. Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire ?
Alors oui, très brièvement, et pour reprendre une définition donc du labo de l'ESS, le terme d'économie sociale et solidaire regroupe donc un ensemble de structures qui reposent sur des valeurs et des principes communs. L'utilité sociale, les coopérations, l'ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leur activité, en fait, ne vise pas l'enrichissement personnel, mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l'homme et de son environnement. L'économie sociale donc se définit par les statuts des structures qui la composent, que ce soit associations, coopératives, mutuelles et fondations. Elles défendent la priorité de l'homme sur le capital et impliquent une gestion collective des organisations. Et le côté économie solidaire donc rassemble les organisations dont l'objectif premier est l'utilité sociale. Et elle naît dans les années, donc, les années 70.
Et est-ce que le projet CJM, c'est lui-même un moyen de promouvoir ce modèle d'économie ?
Alors sans aucune hésitation, oui. Parce qu'elle s'adresse en priorité, donc, mais pas exclusivement à la jeunesse. Et ce modèle de coopérative, donc d'expérimentation d'entrepreneuriat collectif, propose une expérience donc éphémère de création d'activités en coopérative et visant donc à développer l'apprentissage du commun en maîtrisant les codes de l'entreprise, toute son importance, de la coopération et la gouvernance collective dans une finalité donc non lucrative. Elle s'appuie donc sur les fondements de deux écoles de pensée et de pratique, celle de l'éducation populaire, donc qui milite pour le développement individuel des personnes et le développement social communautaire afin de permettre à chacun donc de s'épanouir, de trouver une place dans la société.
Ben merci Sébastien, on se retrouve dans un instant pour parler des Open Badges.
le soleil, le soleil, le soleil, le soleil.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Julien Bensé à l'instant sur Radio Plus avec l'Odyssée, extrait de l'album du même nom sorti il y a tout juste un mois. On retrouve tout de suite Pauline et Nicolas pour la suite de votre émission La Ligue et vous.
Et aujourd'hui, dans notre émission spéciale rétrospective, nous parlons maintenant des Open Badges, puisque c'était le sujet de l'émission du mois de novembre. Les Open Badges, c'est un dispositif qui a pour but de mettre en valeur les compétences informelles. En fait, il s'agit de badges numériques qui peuvent être attribués entre pairs.
À l'occasion de la conférence internationale EPIC qui se déroulait du 24 au 26 octobre 2018 à Paris, nous avons pu interviewer Mathieu Muselet qui nous expliquait les principes fondamentaux des open badges. On l'écoute tout de suite.
En parlant des open badges, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle en est l'origine ?
Oui, alors elle est fixée, elle est datée de fin 2010 où la fondation Mozilla, donc inscrite dans l'univers du logiciel libre, crée cet open badge, donc en français badge numérique ouvert, c'est-à-dire un code source qui est libre. Et un open badge est en fait une image qui renferme des métadonnées. Les métadonnées, ce sont des mots, des phrases et des preuves de quelque chose. En l'occurrence, à l'époque, Mozilla était vraiment dans la perspective d'un mouvement mondialisé qui irait un petit peu contre les Facebook et Google naissants qui commençaient à manger nos données et à en faire leur propriété.
Et quelle est la méthodologie qui permet la mise en place des open badges ?
Alors, l'open badge, c'est quelque chose de très très simple. Hein. Il faut 20 minutes pour faire un open badge. On se met sur une plateforme, il en existe des gratuites. Nous, on utilise Open Badge Factory. Et après avoir choisi une image qui représente le badge, hein, ça peut être un badge de compétence, par exemple, de coopération. Je sais coopérer dans un projet. On appuie simplement sur un petit bouton et là on va pouvoir rédiger la situation de l'expérience. Par exemple, au cours de cet entretien là, si vous aviez à me décerner un badge de bonne interviewée, eh bien vous décririez cette cette situation. Nous sommes dans les sous-sols du CRI, il est 14h, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et ensuite, à travers un petit protocole, on appelle ça nous un petit protocole de récit de l'expérience, vous me diriez, ben Mathieu, vous avez été clair, vous avez bien articulé, ou le contraire, vous ne me donneriez pas ce badge. Une fois que ce protocole est fait, vous appuyez sur un bouton et le badge est disponible pour moi, et je peux l'emporter sur des réseaux sociaux type LinkedIn, sur un blog, c'est-à-dire je peux inscrire une image où quand la personne va visiter mon blog, elle va avoir à cliquer dessus si elle est curieuse de savoir si je suis un bon interviewé.
Et justement, si je vous décernais donc ce badge de bon interviewé, quel système serait mis en place pour permettre de vérifier la véracité de ce badge ?
Alors, c'est tout le sujet du badge. Le badge, il est né dans l'espace non formel ou informel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'école. L'école ou le système de certification, en particulier en France, valide et revalide les compétences par un système de jury. C'est ce qu'on appelle le principe de certification. L'open badge, il est né du déclaratif. Vous avez vu l'exemple que j'ai donné, c'est vous qui me le donnez. Vous, a priori, vous n'êtes pas directeur d'une école de journalisme. Par contre, qu'est-ce qui vous empêche de me délivrer ce badge ? Je suis avec vous dans cette situation-là, vous portez un avis sur ma compétence, on peut émettre le badge. Donc, ce badge, a priori, n'a pas de valeur au départ, si ce n'est dans une relation entre nous deux, sur cette qualité d'interviewer. Si je voulais qu'il en ait, moi, pour me servir de ce badge, eh bien, ça serait intéressant que d'autres organisations l'endossent ou l'acceptent. Par exemple, Radio France, on verra ce badge à Radio France, qui dirait, ah bah oui, oui, moi, je reconnais ce badge parce que j'ai écouté en podcast ce petite interview. Effectivement, il y a des petites compétences qui sont pas mauvaises. Ou alors, elle refuserait. Je dirais, ben non, ça vaut pas triplette cette affaire-là, je le refuse. Et donc le badge prend de la valeur à partir du moment où d'autres gens appuient sur le bouton, et ça s'appelle un bouton d'endossement, et ils disent « je reconnais ce qui s'est fait, je reconnais ce qui s'est fait ». Et nous pouvons avoir 10-15 endossements. La valeur du badge s'acquiert en fonction du nombre de structures qui reconnaissent qu'il a de la valeur.
Sébastien, tu es toujours avec nous pour répondre à nos questions. On vient d'écouter Mathieu Muselet, qu'on avait interviewé à l'occasion de la conférence EPIC. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le but de cette conférence ?
Oui, donc la conférence EPIC 2018, c'était la 16e conférence internationale donc sur la reconnaissance, la confiance, l'identité et donc leur technologie. Cette conférence EPIC a permis donc de mettre en lumière et de rendre visibles les usages d'une reconnaissance informelle. L'idée et le principe de cette conférence était de relever donc le défi de la confiance, donc pour créer un écosystème de reconnaissance ouverte. Et donc par le biais de tables rondes, elle a permis donc de construire et de mettre en avant et d'exercer donc sur ce qu'on appelle des territoires apprenants.
Donc ça concernait plutôt un aspect théorique dans la mise en place des badges. Mais en pratique, est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place pour développer les open badges dans le Pas-de-Calais, par exemple ?
Oui, donc nous avons à ce jour deux territoires apprenants. Donc Calais, qui est au niveau des prémices, au niveau de la dynamique, mais qui a une volonté de développer les open badges sur ce territoire. Et sinon, une autre action à notre territoire, donc sur Saint-Paul-sur-Ternoise. Saint-Paul-sur-Ternoise, donc par le biais de l'association Dacabra et la coopérative des savoirs, ils organisent en fait des ateliers open badge depuis maintenant plus d'un an. Et l'idée de ces ateliers, c'est de réaliser un travail donc de concertation sur la création des badges, donc par de compétences, par des brainstorming autour donc des compétences et à mettre en relief pour créer son badge, la validation par l'ensemble. Et ce qui est important, c'est que c'est une validation par l'ensemble du groupe. Donc ce sont des pairs, c'est un groupe qui octroie, qui vient à mettre en place donc ce badge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces coopérateurs donc réalisent des open badges donc depuis un an et sont moteurs d'une réelle dynamique sur le territoire, sur leur territoire et sur le territoire donc du Pas-de-Calais, en appui avec la fédération de la Ligue de l'enseignement naturellement, et également sur deux coopérateurs, donc deux d'entre eux ont pu participer donc en 2016 et 2017 donc au projet d'Erasmus+ mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont allés en Angleterre et en Suède pour voir et faire le retour ensuite sur notre territoire, donc sur Saint-Paul, et faire le retour de cette expérience. Et donc depuis maintenant un an et demi, sont les premiers à expérimenter ce dispositif.
Peux-tu nous parler du programme Badge dans le Pas-de-Calais? On en avait déjà parlé lors de l'émission de novembre.
Oui, alors, le Badjon, le Pas-de-Calais, l'idée, c'était lors de cette conférence EPIC au mois d'octobre, c'était officialiser donc la démarche et le souhait et la volonté de la Ligue de l'enseignement de se positionner en tant que porteur de projet, le porteur d'Open Badge, donc à l'intérieur de notre réseau, pas que, mais à l'intérieur de notre réseau. L'idée, c'est de pouvoir accompagner, donc il y a un comité de pilotage qui va avoir lieu donc en janvier 2019, qui va nous donner tout un rétroplanning, une dynamique, une démarche à réaliser sur cette année de ces deux territoires, donc Calais et Saint-Paul, de ce retour d'action et d'expérience. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir œuvrer sur d'autres territoires, donc durant l'année 2019, et d'apporter aussi des outils, un accompagnement. Qu'on appelle, et par le biais de l'Open Badge Factory. L'idée de l'Open Badge Factory, c'est un dispositif, c'est une plateforme où pour lequel peut permettre de réaliser et de mettre en place son badge. Matt Musley a évoqué qu'effectivement le badge c'est assez facile à mise en place. Il y a les entretiens d'expérimentation, d'explicitation qui ont lieu auparavant, mais à un moment il faut passer par une démarche à peu près numérique. Et le souhait au niveau de la Ligue, c'est d'être en tête de réseau pour avoir des sous-organisations qui ont entièrement cette liberté, mais qu'on puisse accompagner les structures, les territoires qui ont cette volonté au niveau donc de ces Open Badges. Et Open Badge, je rappelle qu'il est surtout un standard donc pour reconnaître et valider, accréditer les apprentissages donc tout au long de sa vie, cette reconnaissance informelle.
À une échelle plus locale, donc Pauline a pu rencontrer les membres de la coopérative des savoirs de Saint-Paul-sur-Ternoise qui œuvre pour l'introduction des Open Badges dans le Pas-de-Calais. On va écouter tout de suite son reportage.
Bonjour Eva, pourquoi souhaitez-vous développer les Open Badges sur le Ternois ?
Nous nous sommes rendus compte que des personnes se dévalorisaient et donc nous voulions mettre leurs compétences en avant.
Comment avez-vous introduit cette notion d'Open Badge ?
Il y avait déjà une idée de mettre les compétences en avant donc au sein de l'association, mais on ne savait pas trop comment les développer. Donc nous avons des personnes de l'association, Jean-Paul Delbecq et Philippe Cavallet, qui sont partis une première fois en Angleterre, à Oxford, dans une association qu'ils développaient déjà. Et l'année suivante, ils sont partis en Suède, où ils développaient aussi les Open Badges. Donc de là, ils nous ont ramené ce qu'ils ont appris là-bas, et nous avons commencé à travailler sur le développement des Open Badges.
Donc vous avez commencé en mettant en place cet atelier ?
Oui, exactement. Nous sommes basés donc sur les ateliers qu'il y a à la coopérative des savoirs et sur les personnes pour développer les compétences.
Par exemple, les compétences qui ont été développées cet après-midi ont été choisies en fonction des personnes qui allaient participer et qui ont participé.
Oui, mais qui sont aussi au sein de l'association. Ils ne sont pas forcément présents lorsque nous faisons les Open Badges, mais c'est surtout au sein de l'association.
Et quand est-ce qu'a commencé cet atelier Open Badge ?
Alors, il a commencé il y a déjà plus d'un an, mais c'était plutôt oralement. Et ensuite, donc nous avons voulu le développer, nous avons fait les réunions, donc nous présentons sous forme de mind mapping et le temps de pouvoir avoir le support informatique pour les présenter, nous les présentons en forme de toile d'araignée.
Et quel est l'aspect le plus important que vous aimeriez développer à travers cet atelier Open Badge ?
Valoriser les personnes, parce que nous avons des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais travaillé, et pourtant elles savent faire beaucoup de choses. Donc c'est mettre ça en avant, valoriser les personnes, montrer qu'elles ont des compétences et pouvoir les remettre sur le marché de l'emploi.
Et cet atelier semble être une véritable réussite.
Totalement. Nous sommes en général entre 15 et 20 personnes tous les mardis. Donc nous développons plusieurs Open Badges, en général 3 à 4 heures par réunion.
Merci beaucoup Eva Ferreira Pinto d'avoir répondu à nos questions.
Merci Pauline.
Hélène et Nancy ont également participé à cet atelier Open Badge. Elle raconte.
Moi, les Open Badges, j'aime beaucoup. Pendant ma mission de service civique, j'ai été à un moment chargée des Open Badges, notamment du niveau informatique pour la plateforme Badjon Pas-de-Calais. Moi, j'aimais beaucoup. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me touche un peu parce que d'un point de vue personnel, j'ai pas un CV extraordinaire. Et savoir qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, ça me touche beaucoup.
Conception d'un projet.
Cet atelier, c'est plusieurs fois que je participe à plusieurs ateliers sur les Open Badges. Ça permet de nous connaître personnellement et ça permet aussi de développer de l'expérience, des connaissances qu'on pourrait valider sur notre CV. Parce que ça nous apporte des plus, ça nous fait travailler, ça nous remet en question, ça nous fait effectivement évoluer là-dessus. Elle nous fait aussi prendre conscience de notre personnalité et aussi ça nous apporte notre vision puisqu'on travaille en équipe. Donc on a plusieurs points de vue qu'on puisse partager et qu'après ça c'est aussi ce côté solidaire et que j'aime beaucoup personnellement.
Du coup vous pensez que les open base sont quelque chose de positif ?
Oui. Ah oui, c'est formateur. Ça nous permet justement d'apporter des choses qu'on ne voit pas forcément, puisqu'on a une vision globale. Tandis que là, comme je vous dis, ça nous apporte au quotidien. On voit plusieurs visions. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a aussi des compétences. Ces compétences-là se développent effectivement sur les open page. Et comme je vous dis, ça nous apporte beaucoup au point de vue personnel. Ça nous remet en question aussi. Et aussi sur nos futurs, avec la coopérative des savoirs, effectivement, ils ont développé l'association LIA, ils ont aussi développé Territoire en Marche, et ils ont développé aussi notre association comme ci, comme ça. Moi, ça va me permettre de justifier, là, ça fait 14 ans que je n'ai pas travaillé, d'apporter ce plus.
Les open badges commencent donc à se répandre localement, comme c'est le cas ici à Saint-Paul-sur-Ternoise. Avec le projet Badgeons le Pas-de-Calais, on peut alors s'attendre à ce qu'il se démocratise sur tout le territoire. Aujourd'hui, ce sont en tout cas 5 badges qui ont été approuvés.
T'en peux nous valider ?
L'homme attiré, pour être le plus fort, l'homme attiré, pillant tous les trésors, l'homme en tyran, la vie des gens au sort s'est fait tyran, sans l'ombre d'un remords. Par le pouvoir et l'or et m'attirer, profit sans trop d'efforts, l'homme s'est tiré. Quand survint l'inconfort, il s'est tiré. Quand s'approcha la mort,
il nous reste encore l'espoir dans la boîte de Pandore. Il nous reste encore l'espoir que l'homme s'améliore.
Balle dans le pied, c'est ça le pire. Demain qui va pleurer, oui, l'homme se tire. Une balle dans le pied, c'est ça le pire. Plus personne pour pleurer.
Sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Karine Claire et la boîte de Pandore à l'instant sur Radio Plus. Il est 9h36 minutes et on retrouve tout de suite la Ligue de l'enseignement pour l'émission La Ligue et vous.
Et pour la dernière partie de cette émission spéciale rétrospective, nous revenons sur la 7e semaine départementale de la laïcité qui a été organisée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais et qui s'est déroulée du 3 au 11 décembre dernier.
L'émission de décembre a été pour nous l'occasion de revenir sur cette semaine. Nous avions alors été à la rencontre de certaines associations agissant dans le cadre de ce temps fort. On va tout de suite les écouter.
À l'occasion de la 7e semaine départementale de la laïcité, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais a coordonné une centaine d'actions portées par presque autant d'associations dans tout le département. À Marques, par exemple, le centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau a ouvert ses portes le mercredi 5 décembre pour une après-midi festive durant laquelle les participants pouvaient jouer à des jeux de société africains, regarder une exposition photo ou encore jouer du djembé. Grégory Kuchedja a répondu à nos questions.
Bonjour, donc c'est Grégory Kuchedja, je suis responsable jeunesse pour le centre social et culturel Cousteau de Marques. On a décidé de créer un temps fort assez convivial, ludique. Donc les participants avaient accès à des jeux solidaires, c'est-à-dire c'est des jeux qui abordent des thèmes assez sensibles comme la répartition des richesses dans le monde ou la surpopulation, mais tout en étant un jeu, ce qui fait que les participants jouent mais apprennent en même temps. Il y avait deux expositions photos, une exposition qui retrace l'expérience que des jeunes marquois ont vécue au mois de juillet de cette année. Ils sont partis au Togo rénover un lycée dans la commune d'Anéo. Et la deuxième exposition photo concerne des projets qui ont été réalisés au Bénin, notamment pour de l'agriculture bio et la protection de la faune sauvage. En plus de ça, il y avait forcément des jeux traditionnels africains comme la Wale, il y avait une vidéo reportage qui retraçait encore une fois l'expérience du Togo. Il y avait l'initiation au djembé, comme vous avez pu l'entendre en arrivant. Et on finit cette journée festive par un petit concert solidaire. Il est important pour nous, voire impératif, de sensibiliser la population à ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est un gros mot dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Et nous, on a choisi d'aborder l'axe de la laïcité par le biais de l'ouverture culturelle, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Puisqu'on sait que malheureusement, tous ces phénomènes de racisme ou d'intolérance qu'on peut rencontrer sont souvent dus à une méconnaissance de l'autre ou à la peur de l'autre ou à beaucoup de préjugés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur cet axe-là, ouais.
Le même jour, à Béthune, l'association ALIM, Association d'animation et de loisirs intergénérationnels du Mont-Liébeau, anciennement les Ch'tis Voyageurs, a organisé un spectacle clownesque suivi de l'arrivée de Saint-Nicolas. La soirée s'est ensuite terminée par un temps d'échange autour d'un goûter. Franck Lucas, le vice-président de l'association, nous en dit un peu plus.
Dans le cadre de la semaine de la laïcité, donc aujourd'hui, donc le 5 décembre, nous avons créé un goûter à l'occasion de la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, tout de suite, on peut penser à la religion et autres, mais là, pas du tout. En fait, nous avons donné vraiment un temps d'échange en fait entre enfants issus de toute culture, toute origine, toute religion. Et donc, c'était l'occasion, en fait, la Saint-Nicolas, de le transformer en fête des enfants tout en gardant le nom de Saint-Nicolas. Voilà.
Dans un autre registre, à Saint-Paul-sur-Ternoise, le lundi 3 décembre, l'association Territoire en Marche a déambulé sur la place du marché en compagnie de trois ânes. Les participants affichaient également une banderole sur laquelle ils avaient écrit la phrase suivante « Si les animaux y arrivent, pourquoi pas nous ?» Le but de la manifestation était effectivement d'interpeller les passants sur la question du vivre ensemble et de montrer que malgré la multitude d'espèces, les animaux coexistent plus pacifiquement que les hommes. Mais la semaine de la laïcité n'est pas seulement organisée par des adultes. La junior association Time Breaker a également souhaité prendre part à cette semaine riche en événements. Loïc, le président, a répondu à nos questions juste avant sa représentation lors du Gala des Margas à Boulogne-sur-Mer le 5 décembre.
Nous sommes une association qui a pour but de promouvoir la culture hip-hop à travers de différents shows. Pour la semaine de la laïcité, nous avons fait un show entre l'égalité garçons-filles. Le but, c'était de montrer que les filles et les garçons étaient tous égaux.
Comment vous avez eu cette idée ?
On a reçu l'appel à projet. Ensuite, on a plutôt réfléchi à ce qu'on pouvait faire, ce qui était possible. Et aujourd'hui, c'est un thème de Noël pour parler aux enfants.
Il y aura le Père Noël ?
Non, il n'y en aura pas. Voilà. Il y aura les lutins.
C'est déjà ça ?
Ouais.
Je te remercie beaucoup.
De rien.
Certaines écoles ont également participé à la semaine de la laïcité en mettant en place des activités ludiques. À Calais, par exemple, l'école Greuze a fait appel à l'association Parcours pour un atelier marionnette.
Je m'appelle Chrisanne Eddy, je suis un marionnettiste de formation. Je fais partie de l'association Parcours, en deux mots. Ça fait un moment que je participe avec la Ligue d'enseignement dans leur programmation, la semaine de la laïcité. Donc là, c'est un petit atelier de création de petites marionnettes avec comme vous voyez là. Donc il y a une partie qui est faite dans l'atelier, préparation, parce que c'est un peu long. Et les enfants, ils sont en train de personnaliser leurs marionnettes. Et après, avec toujours très convivial avec l'MJC, on travaille souvent. Donc ils partent avec leurs marionnettes, ils peuvent leur donner un prénom aussi, le personnaliser à leur goût. Ouais. Je montre aux enfants comment ils le manipulent. Et après, aux enfants de le faire vivre, voilà.
Outre les associations, d'autres structures comme l'UFOLEP, la FP2I ou encore certains EHPAD ont mis en place des événements destinés aux personnes qu'ils accompagnent au quotidien. À l'EHPAD de la Roselière, à Calais, il s'agissait alors d'un atelier scrapbooking intergénérationnel entre les résidents de la maison de retraite et les jeunes des établissements régionaux de l'enseignement adapté. On écoute l'une des animatrices de ce projet.
Pour la poudre, il faut vraiment que ça devienne plastique.
Elle est jolie, sa carte.
Ouais.
Bonjour, je suis Françoise Guernery, je suis animatrice socioculturelle au centre hospitalier de Calais et je travaille à l'EHPAD de la Roselière où on accueille 260 résidents. Alors l'action concerne un intergénération avec des jeunes ados qui sont en déficience sociale au niveau des parents et des grands-parents. On travaille en partenariat avec eux depuis 2 ans sur le jeu de société. Et aujourd'hui, pour changer, on a voulu faire du scrapbooking de façon à ce que les résidents, les personnes âgées, apprennent aux jeunes à faire des cartes pour que eux repartent avec et envoient à leur famille pour ceux qui en ont.
Et pourquoi est-ce que vous avez voulu marquer le coup, entre guillemets, pour la semaine de la laïcité ?
Pour faire comprendre aux jeunes aussi ce qu'est la laïcité, pour leur faire comprendre que chaque personne dans ce monde a une place, qu'on soit personne âgée ou jeune, qu'on soit ouvrier ou chômeur ou chef d'État. Tout le monde est égal, ensemble pour tous et avec tous.
À Arras, la FP2I a organisé une journée spéciale le 7 décembre, durant laquelle les apprenants ont créé une exposition qui présente plusieurs pays dont certains sont originaires. L'UFOLEP a, elle, mis en place différents ateliers à la MJEP d'Isberg. Le but était de montrer aux participants la nécessité de la tolérance pour vivre ensemble. L'un des ateliers consistait ainsi à se confronter à un handicap de taille, la non-voyance. Enfin, cette 7e semaine départementale de la laïcité s'est conclue par une table ronde à la Coupole d'Elfo, où une classe de 3e du collège René Cassin de Wizerne s'est questionnée sur la question des droits et des libertés lors du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une centaine d'actions très diverses ont donc marqué l'ensemble du Pas-de-Calais pendant cette 7e semaine départementale de la laïcité organisée du 3 au 11 décembre 2018.
Sébastien, tu as coordonné cette 7e semaine départementale de la laïcité. Quel bilan on peut en tirer ?
Alors aujourd'hui, un bilan plus que positif, dans le sens où cette 7e année consécutive donc a été organisée, pour nous est un événement d'ampleur départementale autour de la laïcité. C'est un temps donc qui est fort et qui fait transpirer notre ADN sur le territoire, et c'est pour nous donc l'occasion de rassembler tous ceux qui, comme nous, sont attachés à faire vivre la laïcité comme un principe essentiel du vivre ensemble. Le constat est qu'effectivement chaque année le nombre de partenaires augmente. Cette année nous avons eu donc 200 partenaires engagés autour de ce principe, autour de cette ADN, et avec une 100 initiatives donc militantes sur l'ensemble du territoire qui a été sur cette 7e année. L'année auparavant nous étions sur une quarantaine de manifestations de projets, et là nous étions donc sur une centaine. Sur cette centaine donc en quantitatif, mais en qualitatif, nous avons eu vraiment donc des ateliers, des spectacles, des expositions, des débats. Donc sur cette centaine d'initiatives militantes ont été proposées donc à l'ensemble du public sur tout le territoire du département, donc, et que nous avons pu donc accompagner, et également par rapport à notre soutien et cet accompagnement auprès des différentes structures.
Donc c'est vraiment un bilan totalement positif.
Tu étais déjà notre invité lors de la dernière émission et on avait malheureusement eu assez peu de temps pour l'évoquer. Il y a un autre temps fort organisé par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, effectivement. Et merci de pouvoir me donner l'occasion de pouvoir me réexprimer par rapport à ce deuxième temps fort, donc cette deuxième semaine départementale qui est donc sur la semaine départementale de la fraternité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais s'engage donc autour de la fraternité, non pas pour dénoncer les discriminations, mais pour faire vivre au quotidien la fraternité. C'est pourquoi, si vous voulez, c'est que notre temps fort, donc qui se réalise du 18 au 25 mars 2019, est autour de la journée du 21 mars, qui est la journée donc internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, donc une journée forte par rapport à ce 21 mars. Mais si vous voulez, c'est que le principe est de faire vivre au quotidien la fraternité, c'est que cette semaine donc porte le nom de Fête la fraternité. Et c'est pour nous l'occasion, sur le même principe que la laïcité, qui est un moment donc constitutif, et de porter un éclairage sur les actions que mènent nos associations affiliées, mais également les écoles, les collectivités partenaires pour faire société et donc pour un monde plus fraternel et plus solidaire. Alors de quelle façon on s'y prend ? C'est que là, dès à présent, vous pouvez aller sur notre site internet. Donc effectivement, c'est un appel à participation ou un appel à projet. Donc en direction des associations, des établissements scolaires, des collectivités, donc aussi bien à l'intérieur de notre réseau ou sans être dans notre réseau. Mais l'idée, c'est que sur notre site internet, on peut retrouver soit l'appel à projet ou l'appel à participation. Alors, il y a une deadline, la date est le 4 février, mais l'idée, c'est que chaque structure puisse y répondre, nous retourner ces appels à projet et participation pour qu'on puisse mettre effectivement et faire vivre sa fraternité, totalement sur le territoire de la même façon que nous avons pu faire vivre la laïcité.
Et puis pour les associations affiliées, vous êtes vraiment dans une démarche d'accompagnement.
Oui, exactement. Donc de cet appel, après, nous pouvons être sollicités sur la mise en place. On peut avoir un accompagnement des associations, des structures, que ça soit avec notre pôle éducation-formation, donc il peut être un accompagnement parfois un peu plus technique sur différentes questions, par rapport à une mise en place d'une conférence, d'un débat, d'une table ronde. Donc il y a une réelle, effectivement, accompagnement au niveau de nos structures affiliées ou non affiliées.
Ben, merci beaucoup, Sébastien Brioul, chargé de mission, Vie fédérative, pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, d'avoir répondu à nos questions.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité, abusive. Virilité, abusive. mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain dans La Ligue et vous. Et donc cette émission était une rétrospective. Nous, toutes les émissions dont nous avons parlé sont disponibles en podcast sur le site web de Radio Plus, sur www.radioplus.fr.
C'était Pauline Contessotto et Nicolas Lecomte, radio reporter en service civique pour la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. À bientôt sur Radio Plus.